100% d'Europe, Laurent Berthaud.
Bonjour à tous. C'est un cauchemar digne du 19e siècle que des enfants suisses ont vécu jusque dans les années 1980. Des milliers d'enfants arrachés à leurs parents au motif qu'ils étaient pauvres. Ils ont été placés de force dans des institutions ou chez des paysans comme main d'œuvre bon marché, souvent maltraités, humiliés, battus, même violés. Aujourd'hui, les victimes de ce qu'on appelle ces mesures de coercition à des fins d'assistance réclament réparation. La Suisse lève le voile sur cette période sombre et reconnaît leur souffrance. Un fonds d'indemnisation a été constitué. C'est un reportage de Katia Michel.
Encore maintenant, des fois, j'ai des peurs, j'ai toujours cette peur-là. J'ai beaucoup de problèmes psychologiques. Je repense à toute mon enfance et tout. J'arrête pas d'y penser. Le matin, je me réveille, tac, tac, je pense à ça, je pense à ci. Je l'analyse toute ma vie.
Joël Huldry a 60 ans aujourd'hui. Le temps a passé, mais les traumatismes de son enfance le hantent toujours. Nous l'avons rencontré chez lui, au cinquième étage d'un immeuble de la banlieue lausannoise.
Bonjour.
Bonjour.
Abandonné par son père, Joël est dans un premier temps élevé par ses arrière-grands-parents. Jugé trop vieux pour s'occuper de lui, Joël est alors placé à l'âge de 10 ans dans plusieurs familles de paysans où il sera exploité, humilié et maltraité.
Pour moi, c'était normal. J'ai toujours connu ça. Me lever à 4 heures le matin, faire ci, faire ça. Allumer les fourneaux, préparer de l'eau chaude pour les veaux, donner à manger aux veaux, sortir les fumiers. On devait porter des bidons d'eau pour aller les abreuver. Tout ça, quoi. Moralement, physiquement et tout. C'est très dur.
Joël se ronge les ongles et fume cigarette sur cigarette. Visiblement nerveux à l'évocation de ce passé si lourd et encore si présent.
J'ai rien pu faire quand vous saviez pas ni écrire ni lire. Je sais un peu écrire, mais je serais pas capable d'écrire une lettre sans faute et tout. Ça m'a bloqué toute ma vie. J'ai rien pu faire dans ma vie. J'ai pas pu faire d'apprentissage ou quoi que ce soit. J'ai toujours été employé à gauche, à droite comme ça. Les gens ont profité de moi et tout. Puis voilà, quoi. Vu que j'ai pas fait d'apprentissage, j'avais pas de papier. Tout ça, ça a freiné. Alors, on m'a toujours exploité partout. Puis moi, je suis pas stable. J'ai tellement changé dans mon enfance, à gauche, à droite, ici, là. Je suis pas stable. J'ai jamais pu avoir un travail, rester à quelque part. Je peux pas. Je suis pas stable. Ça me fait peur, ça.
Entre 1800 et 1980, on estime à 100 000 le nombre d'enfants élevés à la dure dans des institutions religieuses ou contraints au travail forcé. À l'époque, les pauvres inquiétaient les bourgeois. C'est l'une des explications avancées par l'historien Pierre Avanzino de cette politique familiale très répressive.
Début du 19e, on est quand même petit à petit dans des révoltes des classes laborieuses. Il va y avoir le Parti Socialiste, la défense des ouvriers, l'émergence des syndicats. Et du côté des bourgeois, il y a quand même une peur de la sédition de ce milieu-là. Donc il faut le contrôler. C'est aussi un des aspects, un des volets de cette pédagogie-là. Est-ce qu'on a beaucoup pratiqué au 19e jusqu'au premier quart du 20e siècle, c'est la mise en vente, comment dire, mise aux enchères à la baisse sur la place publique de ces enfants-là. C'est une manière de se débarrasser d'eux et de les mettre chez des paysans qui les faisaient travailler dans des conditions extrêmes.
Longtemps, les victimes ont gardé ce lourd passé enfoui en eux. Mais ces dernières années, les langues se délient. Clément Vielli a lui aussi été arraché à sa mère et placé dans différents orphelinats. Aujourd'hui, il préside l'association de défense des enfants placés, Agir pour la dignité.
On était très punis, très frappés. On nous réveillait la nuit, on nous taper avec des tap-tapis pour les, ces tap-tapis en forme de pétales, là. On a vraiment souffert. C'était énorme. Et on a eu du retard à l'école, on se faisait taper sur les doigts, à l'école parce qu'on s'endormait, on était fatigué, on n'y pouvait rien, quoi. Puis tout ça a engendré un manque de connaissances et de savoir. C'est là où je mène le combat parce qu'on a tellement maltraité les enfants que ça fait boule de neige toute leur vie. Il y a beaucoup de gens qui sont illettrés, qui sont analphabètes, c'est terrible, quoi. C'est moi les gens que j'ai vus aujourd'hui.
Sous la pression des associations de victimes, la Suisse entame alors un douloureux travail de mémoire. Elle mandate une commission d'historiens. Le pays redécouvre avec effroi les heures sombres de cette politique sociale. Des mères célibataires jetées en prison, stérilisation ou avortement forcé, internement abusif. En 2013, la Suisse présente ses excuses officielles aux victimes de ces mesures de coercition par la voix de Simonetta Sommaruga, la ministre de la Justice.
Au nom du gouvernement suisse, sincèrement et du fond du cœur, je vous demande pardon pour les souffrances que vous ont été infligées.
En plus de cette reconnaissance officielle, la Suisse débloque un fonds d'indemnisation de 300 millions de francs, soit environ 25 000 francs pour chacune des victimes encore en vie. Une faible compensation, estime Clément Vielli.
20 ans d'institution, privation des parents, abus sexuels, malnutrition, mauvaise connaissance scolaire, institution délabrée dans certains endroits où on était. Et vous voulez qu'on vous donne 25 000 francs pour 20 ans pour ça ? Non, mais ils se moquent du monde, quoi. Et après, vous pouvez encore rajouter les mains de bon marché. Ils ont, combien d'enfants, de jeunes filles ont travaillé pour l'après-guerre en 48 pour coudre tous les uniformes de l'armée. Ils ont fait ça. Ils n'ont jamais vu un sou. Et puis après, on a les filles au père. C'est pareil, ces jeunes filles qui ont travaillé dans les familles, chez les paysans, la lessive, la manger, tout, quoi. C'est inhumain.
Les mesures de privation de liberté à des fins d'assistance ont été abandonnées en 1981, quelques années après l'adhésion de la Suisse à la Cour européenne des droits de l'homme. D'autres pays européens ont également mené des politiques enfantines similaires. C'est le cas de l'Espagne, de l'Irlande, la Suède ou encore l'Allemagne. En 2014, l'État français avait également présenté ses excuses et voté une résolution mémorielle.
Eux aussi ont été abandonnés à leur sort, les jeunes et moins jeunes chômeurs de Toscane en Italie. Alors la région a réagi en lançant un programme d'insertion sur le marché du travail qui commence à faire parler de lui et pour cause, il fonctionne, Cécile Debarge.
Près de 690 millions d'euros investis en 5 ans avec des fonds de la région, de l'État et de l'Union européenne. Le budget du programme Giovanici est ambitieux pour un projet qui l'est tout autant, ramener les jeunes vers l'emploi et la formation. Betty Spartaco est responsable du point info de Grosseto.
On s'est rendu compte et on se rend compte encore aujourd'hui que c'est devenu une vraie angoisse pour les jeunes de chercher du travail. Ils savent très bien que Pôle emploi ou les agences d'intérim proposent un nombre ridicule de postes.
Et ce qui finit de décourager ces jeunes, selon Betty Spartaco, est que c'est souvent par le bouche à oreille ou par le piston qu'ils finissent par trouver un emploi.
Les jeunes se bougent, ils ne restent pas vautrés sur leur canapé. C'est faux de dire qu'ils sont endormis ou anesthésiés à vie. Mais pour qu'ils se bougent, il faut une bonne raison et ils veulent des initiatives concrètes.
Alors, son point info est devenu plus qu'une simple agence de consultation des offres d'emploi et c'est toute la force du projet Giovanici. Penser l'insertion sur le marché du travail de manière globale en y incluant, par exemple...
Pour donner plus d'autonomie aux jeunes, la région Toscane propose par exemple de leur verser une aide pendant 3 ans pour leur loyer éventuel s'ils décident de partir de chez eux ou bien pour les aider à monter une entreprise.
Le projet comporte désormais 6 volets. Stage, service civil, travail, éducation, formation, aide à l'entreprise et au logement. Et il a développé depuis peu ses initiatives culturelles et sportives. Des ajustements nécessaires par rapport aux politiques menées avant 2011 et au projet d'origine, notamment en raison du changement de profil des jeunes qui cherchent un travail ou une formation. La moyenne d'âge, par exemple, ne cesse d'augmenter.
Avant, c'était vraiment surprenant que quelqu'un d'une quarantaine d'années se présente à notre guichet pour venir chercher du travail. Aujourd'hui, c'est courant.
Alors, dans ces critères, le programme Giovanici, initialement destiné aux jeunes, a repoussé la limite d'âge de ses bénéficiaires jusqu'à 40 ans. L'ancrage même du programme sur le territoire a été repensé pour intégrer le projet à toutes les agences pour l'emploi réparties sur le territoire toscan. Une stratégie qui porte ses fruits sur les 70 000 jeunes sans emploi ni formation qui ont profité du programme. 60% ont été orientés vers une première expérience de travail et 27 000 d'entre eux ont trouvé un emploi.
Laikas, kurį radom kartu tenai.
Un scénario digne d'une série de politiques fiction en Lituanie après la victoire de l'Union des Verts et des Paysans aux dernières législatives. Ce parti n'avait qu'un député ces 8 dernières années, il en a aujourd'hui 54. Et c'est autour d'eux que la coalition va se former. À la tête de ce parti, Ramūnas Karbauskis, propriétaire terrien millionnaire, entré en politique en 1996. Il est aussi connu pour avoir transformé Naïssé, son village natal, en petit paradis, ce qui a largement contribué à son succès. Reportage de Marielle Vitureau.
C'est par une série télévisée lancée en 2008 que le renouveau de Naïssé, 500 habitants, a commencé. L'idée d'un été à Naïssé, une grande fresque familiale et sentimentale, a germé dans la tête de Ramūnas Skarbauskis, né dans ce village à 16 km de Šiauliai, la grande ville du nord de la Lituanie. Dans le générique de la série, la caméra survole Naïssé, ses maisons proprettes, son parc avec ses sculptures de divinités baltes. Rasa Žukauskienė est à la tête de l'association des habitants de
Naïssé.
Avec ce tournage, le village était rempli de monde. Les acteurs sont devenus nos invités et il fallait se présenter sous notre meilleur jour.
À coups de milliers d'euros, Ramūnas Skarbauskis a complètement transformé le village et a entraîné les habitants derrière lui. Depuis 2010, une grande fête populaire où l'alcool est banni rassemble des milliers de personnes. Le village a aussi sa troupe de théâtre qui se produit gratuitement, un mode de développement qui séduit Rasa Žukauskienė.
Je suis sûre que chaque ville de Lituanie a son millionnaire, des personnes riches, mais il y a rarement des vrais mécènes parmi elles. Je pense que Naïssé a simplement eu de la chance. Il ne faut pas oublier que beaucoup d'argent a été investi. C'est pour cela que le village est différent des autres.
Des dizaines de milliers de touristes viennent voir chaque année ce petit paradis lituanien. Comment comprendre la démarche de ce millionnaire propriétaire de plus de 30 000 hectares de terre dans le pays, soit trois fois la surface de Paris intramuros? Élément de réponse avec Indrė Makaraitytė, journaliste politique.
Il met toujours en avant qu'il est un enfant de la campagne. Son père était à la tête d'un kolkhoz et son influence sur lui a été sans limite. À Naïssé, il réalise à la fois un rêve d'enfance et le but de sa vie. Son village peut être un exemple pour toute la Lituanie. C'est son identité et son projet pour le pays.
Le plus grand employeur du village est Svajūnas Telmokas, à la tête d'une société agricole appartenant au groupe de Ramūnas Skarbauskis. Il ne voit aucun problème a confié la direction du pays à l'Union des paysans et des Verts.
Je pense que c'est possible de réitérer ce succès. Ici, on expérimente à petite échelle, alors si ça fonctionne, pourquoi ne pas développer ce modèle?
Le succès de la transformation de Naïssé, lancé dès 2008, a été un élément clé pour attirer les électeurs vers ce parti. Un parti qui a fait peau neuve en début d'année en recrutant un ancien ministre de l'Intérieur, très apprécié. Mais comme le relève le politologue Mažvydas Jastramskis, ce parti a surtout concentré les votes de protestation et il se cherche encore.
Aujourd'hui, ce parti n'est ni un parti de gauche, ni un parti de droite, ni populiste, ni non populiste. Certaines mesures contenues dans son programme sont très orientées à gauche. Parmi leurs députés, il y a des personnalités de tous bords. Je pense qu'ils ne savent pas eux-mêmes comment ils vont se comporter une fois le pouvoir entre leurs mains.
Ramūnas Skarbauskis et son parti ont donc lancé lundi les négociations pour, dans l'idéal, former une large coalition avec les conservateurs et les sociaux-démocrates, un exercice qui pourrait se révéler périlleux. En tout cas, ce personnage atypique ne cherche à occuper aucun poste autre que celui de député et garder son rôle de stratège qui lui convient si bien.
C'est la fin d'un vieux contentieux entre la Russie et la Bulgarie. Les deux pays ont enfin réglé leurs différends après l'achat par Sofia de deux réacteurs nucléaires à Moscou. Des réacteurs livrés mais jamais payés. Damien Vodenicharov, vous êtes le correspondant de RFI en Bulgarie. Comment en était-on arrivé à cette situation de blocage?
Oui, tout à fait. C'est l'origine du conflit qui remonte à la construction de la centrale nucléaire de Belene, donc la deuxième en Bulgarie. Les premiers plans datent des années 80 et le dossier a été repris par plusieurs gouvernements successifs depuis la chute du communisme. Et c'est finalement en 2008 que le gouvernement de gauche lance officiellement le projet, mais les travaux de construction sont arrêtés 4 ans plus tard par un gouvernement de droite qui estime que la centrale ne sera pas rentable. Et tout ça a coûté en fait plus d'un demi-milliard d'euros aux contribuables qui n'a rien reçu en retour. Pendant que les travaux étaient encore en cours, le gouvernement s'était empressé de commander deux réacteurs à la Russie qui, eux, ont été assemblés. Et finalement, Moscou a exigé qu'ils soient payés alors que Sofia a fait semblant de ne pas l'entendre. Et entre-temps, la construction de cette seconde centrale nucléaire ressort tous les quelques mois dans les discours des politiques, surtout lorsqu'ils s'accusent mutuellement d'incompétence ou de corruption. Une enquête du parquet est même en cours contre tous les anciens ministres successifs de l'énergie.
Et donc, l'accord qui vient d'être signé règle définitivement le problème ?
Eh bien, dans ces grandes lignes, cet accord confirme que la Bulgarie devra payer 600 millions d'euros au constructeur Atomstroy Export d'ici le 15 décembre. La Russie a de son côté renoncé au taux d'intérêt sur le retard du paiement, soit environ 20 millions d'euros. L'arbitrage international avait en fait tranché de la même façon. Cet accord n'est pourtant que le premier volet de la nouvelle entente nucléaire entre les deux pays. Sofia et Moscou se sont aussi mis d'accord pour les deux derniers réacteurs de la centrale de Kozloduy, qui, elle, non seulement existe, mais fournit aussi plus d'un tiers de l'électricité en Bulgarie. Et au lieu d'être mis hors d'exploitation à partir de 2017, ils continueront à fonctionner jusqu'à 2047, après des travaux effectués par la Russie. À un moment, le gouvernement pensait même élargir la centrale existante pour pouvoir y mettre les deux nouveaux réacteurs, justement.
Mais au bout du compte, Damien, que vont devenir les fameux réacteurs commandés à Moscou ?
Non, on ne sait vraiment pas quoi en faire, et on voulait d'abord mettre ces nouveaux réacteurs dans la vieille centrale nucléaire, mais la technologie employée est incompatible. Le gouvernement s'est ensuite mis à chercher un acheteur pour deux réacteurs qu'il n'avait pas payés et qui n'étaient pas en sa possession. Le Premier ministre Boyko Borisov cherchait donc à revendre à l'Iran, mais là encore, ce n'est pas aussi simple. La Bulgarie ne peut en fait pas revendre le réacteur sans l'accord préalable du constructeur, donc de la Russie. Et de l'avis d'experts bulgares, la Russie serait en train de construire des centrales compatibles avec ces technologies de réacteurs en Iran, en Inde et en Jordanie. Une autre solution serait de les revendre tout simplement à Rosatom, donc à Moscou. Mais tout ça reste encore à négocier.
Merci Damien Vodenicharov. À Sofia. Si la célébration d'Halloween a quelque peu faibli en France, elle reste toujours aussi forte en Irlande, où Dublin profite de l'occasion pour organiser la 5e édition du Bram Stoker Festival du 28 au 31 octobre. Et qui dit Bram Stoker dit Dracula, Julien Lagache.
I am Dracula.
Plus qu'un hommage à Bram Stoker lui-même ou à sa création, le plus célèbre des vampires, le festival célèbre surtout l'esprit des romans gothiques et leur influence sur la culture populaire, celle de la fiction, où le mystique se mêle à l'horreur et au frisson. Plusieurs soirées de spectacles burlesques offriront une plongée dans l'univers de cabaret des années 20. Les Dublinois seront aussi invités à des jeux de rôle autour du loup-garou pour s'offrir une virée dans l'univers oppressant de l'angoisse. Et alors que les jours raccourcissent, le noir habillera de nombreux événements comme Behind the Dark, une performance artistique dansée au milieu des ombres, des lumières et des arbres de St. Anne's Park, à deux pas de la maison d'enfance de Bram Stoker. Ou encore cette parade macabre qui parcourra les rues du centre-ville lundi 31 pour célébrer Samhain, l'entrée dans la saison sombre celtique le 1er novembre. Mais Dublin profite aussi du festival pour mettre en valeur son patrimoine, puisqu'à la nuit tombée, le public est invité à pénétrer dans les serres victoriennes des jardins botaniques nationaux pour y écouter le récit d'un naturaliste passionné par les plantes et par les expériences.
My coach stopped far below the castle. The moon had started to disappear behind one tower.
Les amateurs d'histoire à lire dans le noir ont eux rendez-vous dans une vieille maison géorgienne du centre pour une performance théâtrale à base de contes gothiques, ou encore à la bibliothèque Marsh, fondée au XVIIIe siècle, où un spectacle d'ombres et de marionnettes se tiendra au milieu des immenses étagères de chêne qui confèrent au lieu un air magique. Et puis, impossible de ne pas parler cinéma avec quelques grands classiques du genre qui seront proposés, tels que Frankenstein, Le Loup-garou ou encore L'étrange créature du lac noir, des chefs-d'œuvre du noir et blanc qui ne prennent jamais la poussière. Et bien sûr, aucun Bram Stoker Festival ne pourrait se tenir sans une projection du fameux Dracula de Ted Browning, sorti en 1931 avec une bande-son jouée en direct.
Et c'est Jérémy Besset qui a réalisé et mis en ombre cette édition. Accent d'Europe à retrouver demain à 17h40 en universel.